Hello, friend.
Il t'a déjà baisé ici sur le canapé?
Non, pas encore.
Jan, director inside sales. They call me Jan the man.
Oh.
When you say people, you mean companies, right?
Actually, no, sorry. Jan the man. By people, I do mean people, humans, consumers.
Cocksucker!
Yeah, glad to tell you that fucking word.
I'll tell you what I think. Wanna know what I think, Fox?
I'm hanging on it.
Are you? I think you're upset about the shushing. I think you were pissed off about the Hitler mustache on your father-in-law. I think you shook up that can of soda on purpose. And I think you're clomping now, and you've made up some bullshit excuse about your feet, and it's all under the guise of Parkinson's. That's what I think.
Rouge, c'est non. Double rouge, c'est double non.
The situation's a lot more nuanced than that.
You think I'm really boring, don't you? Well, get used to it, because now that your father is dead, you can forget about ever going to law school. It's just you and dead people and freaks like me for the rest of your life.
You know, everyone says it's not supposed to make sense, like that's the whole point, dude. And I'm just saying, you know, that's like an excuse for lazy storytelling. Just don't sell me shite and tell me it's gold. All right, I might be stoned, but I'm not high. You know what I mean?
We are God, we're thoughts, we are as
Are you an idiot?
No, sir, I'm a dreamer.
Bien le bonsoir, bienvenue à l'écoute de Série Folie, épisode 23 de la saison 4. Bonsoir Aurore.
Bonsoir Ben.
Ça va bien?
Ça va bien, oui.
Nous sommes repartis pour une nouvelle édition avec la petite habitude. Chaque semaine, on revoit avec toi bien trois petites séries que tu as pu te mettre devant les yeux finalement et que tu as pu critiquer, soit en bien, soit en mal. Et tu vas nous partager tes résultats finalement.
Oui. Alors, je commence tout de suite par la première série dont je vais parler aujourd'hui. Il s'agit d'une série Netflix qui s'appelle Iron Fist.
Ouais.
Et qui est donc la quatrième série de la... comment on appelle ça, l'ensemble des séries Marvel que propose Netflix pour le moment. Quatrième, vu qu'on a eu Daredevil, on a eu Jessica Jones, on a eu Luke Cage, et maintenant, donc nous avons Iron Fist, et normalement, ces quatre personnages-là seront réunis dans une cinquième série qui seront les Defenders, si je me souviens bien. Donc voilà, je l'attendais pas vraiment avec une impatience folle, surtout parce que la série manque un peu d'originalité, en tout cas, par rapport aux autres qui apportaient peut-être quelque chose d'un peu plus nouveau avec une super-héroïne, avec un super-héros noir, avec un super-héros aveugle. Ici, on a juste un super-héros ordinaire, quoi, finalement.
Ouais, rien d'original.
Il a un point d'acier, mais à part ça, pas grand-chose de plus. Alors, je te raconte un tout petit peu le début de l'histoire. Donc, nous avons Danny Rand, qui débarque à New York. Ça fait 15 ans qu'il est censé être mort, qu'il a disparu dans un accident d'avion avec ses parents quand il avait 10 ans. Et donc, il essaie naïvement d'aller retrouver ses amis de l'époque, qui sont devenus les gérants d'une super grosse entreprise multimilliardaire. Évidemment, ça va pas se passer comme ça. Déjà, il faut réussir à accéder jusqu'à leur bureau qui se situe tout en haut d'une immense tour, comme tu peux l'imaginer, pour une entreprise new-yorkaise. Donc, avec tous les gardes, etc., que ça suppose, ça va pas se faire sans souci. Et même une fois qu'il va y arriver, quand même, parce que il est quand même super balèze, hein. Il faut encore convaincre les personnes en question qu'il est bien qu'il prétend être, vu qu'il est censé être mort. Donc c'est pas gagné d'avance. Et autant te dire aussi que ils ont peut-être pas intérêt à reconnaître que c'est bien lui, puisque si c'est bien lui, il faut quand même qu'il leur donne la moitié de leur compagnie, vu que la compagnie en question a été créée par leur père à eux et son père à lui. Donc normalement, ça devrait être moitié-moitié, quoi.
Ouais, oui. Mais oui, ils sont un peu près de leurs sous.
Voilà.
Ils n'ont plus envie de partager.
Oui.
T'es mort, donc, tu restes mort.
On va suivre un peu les péripéties de ce jeune homme, ma foi plutôt sympathique, hein, mais sans plus. Jusqu'à présent, j'en ai vu 4 épisodes, alors je te rassure quand même. Il y a d'autres mystères qui vont se rajouter parce que ça ferait quand même pas fort lourd, mais je ne voudrais quand même pas dévoiler l'ensemble de l'histoire, donc je vais m'arrêter là pour le pitch,
la description,
comme on dit.
Maintenant, t'en penses quoi ?
Maintenant, j'en pense quoi ? J'en pense que j'ai pas encore arrêté, donc c'est pas insupportable à regarder.
Ouais, mais il y a quand même beaucoup de combats, non, déjà.
Un peu long. Et il y a beaucoup de combats de genre kung-fu.
Ouais.
Qui
n'apporte rien nécessairement.
Oui, hein? Ça me passionne pas plus que ça. Hein? Donc oui, à voir si j'arrive à tenir les 13 épisodes, quoi. Parce que malgré tout, ça commence déjà à me sembler long au bout de 4 épisodes, donc c'est un peu embêtant.
Évidemment.
Voilà. Bon, bref,
Iron Fist.
Ça ne vaut pas d'y consacrer beaucoup plus de temps, donc on va passer à la série suivante, si tu veux bien.
Qui, elle, peut-être, a plus d'atouts.
Cette fois-ci, je vais en crescendo.
Crescendo,
vois,
donc, alors qu'on doit garder le meilleur pour la fin, donc dépêche-toi quand même ici.
Oui, alors il s'agit de Crashing. Crashing qui est une nouvelle comédie, alors comédie du genre dramédie, hein, sur HBO, qui nous propose de suivre les déboires d'un apprenti comédien. Donc qui essaie de percer sur la scène new-yorkaise pour devenir un comique reconnu, hein, dans les petits comedy clubs, comme il peut y en avoir beaucoup à New York. Et c'est l'occasion, étant donné que dès le premier épisode, il se fait larguer par sa femme et donc il a plus de maison, il a plus rien. C'est l'occasion pour lui d'aller s'incruster un peu dans la vie d'humoristes qui, eux, sont déjà un petit peu connus. Donc, ça a l'intérêt pour les spectateurs de pouvoir avoir quelques têtes d'affiche à se mettre sous la dent. Et ma foi, je trouve ça très sympathique. sans grande prétention, mais il y a quelque chose de très attachant dans le caractère, dans le côté artiste qui se démerde comme il peut pour essayer de commencer à vivre de son rêve, quoi. Et je trouve ça assez joliment fait. En plus, étant donné que chacun des comiques qu'il finit par rencontrer sont aussi tarés les uns que les autres, c'est généralement l'occasion d'avoir des situations très très farfelues, et donc c'est aussi assez drôle à ce niveau-là. Donc il faut pas hésiter si c'est le genre de série qui peut vous intéresser. Moi, en tout cas, j'ai bien accroché. Et donc je la conseille.
Voilà. Le monde des artistes comédiens de stand-up, finalement.
Oui, exactement. Bah, il y en a quand même beaucoup, hein. Faut avouer que des séries sur ce mode-là, il y en a beaucoup. Sauf que là, c'est vraiment...
Ça nous change de Louis, hein, clairement.
Mais Louis, il a énormément de succès. Donc ici, on a affaire vraiment, enfin. Le type en question qui s'appelle Pete Holmes, moi personnellement je ne le connais pas du tout, alors je suis pas du tout super calée en humoriste américain, mais en tout cas c'est pas une tête qui me disait quoi que ce soit auparavant, donc c'est pas encore le blues du mec qui est revenu de tout, quoi.
Oui,
c'est au contraire
c'est
le mec
ça,
qui a une fraîcheur parce que il est totalement naïf quand il débarque dans ce milieu-là, et c'est aussi un peu pour ça que ça a un intérêt, quoi.
Bien.
Voilà. Troisième et dernière série, je t'ai dit qu'on allait en crescendo cette fois-ci. Il s'agit d'une série FX. Eh oui, encore une fois, les séries FX ont la cote. Et ça s'appelle Feud.
Ah bon ?
Eh oui, Feud. Ça nous raconte quoi ? Ça nous raconte l'histoire de la rivalité entre... ça y est, encore une fois, les noms vont m'échapper. Je sais qu'il y a...
Prends des notes la prochaine fois.
Betty Davis d'un côté et John Crawford, voilà, John Crawford de l'autre. Lors du tournage du film Qu'est-il arrivé à Baby Jane, un truc dans ce genre-là, je n'ai pas vu le film, hein, donc encore une fois, j'étale mon ignorance à l'antenne, il n'y a pas de souci. Et donc c'est une reconstitution de faits réels, même si on peut imaginer que ça ait pu être un petit peu romancé, mais à mon avis pas plus que ça. La rivalité a vraiment apparemment fait les choux gras de la presse people de l'époque. Bon, on est dans les années 60, hein, donc ça commence à dater quand même. C'est pas pour rien que nous n'en avons aucun souvenir, nous personnellement. Et cette rivalité a été alimentée notamment par le réalisateur du film en question, parce que ça lui permettait de garder le pouvoir. Tant que les actrices se disputent entre elles, elles n'essaient pas de se mettre ensemble pour imposer leur vue au réalisateur. Donc ça l'arrange bien. Et du coup, c'est très, très intéressant là-dessus, sur la manière dont finalement la société et peut-être certains hommes peuvent jouer de la rivalité féminine pour la mettre à leur avantage. Donc voilà, c'était... Pour le moment, j'en ai vu que deux épisodes, mais vraiment, ça m'a tout de suite happé, alors que les reconstitutions historiques, c'est pas mon truc, alors que le film et les actrices en question, je n'en ai pas plus... je n'y ai pas plus d'intérêt que ça, ni de connaissances, évidemment. Et donc voilà, c'est plutôt bien joué.
C'est un résultat convaincant.
Oui, apparemment, d'après ce que j'ai compris, ce serait une anthologie. Encore une fois, derrière cette série, on retrouve Ryan Murphy. Ryan Murphy qui se spécialise, hein, apparemment, ces derniers temps, en anthologie, puisque après American Horror Story et American Crime Story, il nous propose ici Feud, qui serait aussi une anthologie, mais cette fois-ci, qui chaque saison nous proposerait une rivalité très médiatisée, différente, toujours sur fond de reconstitution historique, quoi. Donc c'est plutôt une belle reconstitution et c'est vraiment bien joué. On rajoutera qu'on a en tête d'affiche quelques actrices qui valent la peine. Alors Jessica Lange, qu'on retrouve souvent chez Ryan Murphy, et cette fois-ci on a aussi Susan Sarandon.
Voilà. Première partie terminée. Petite pause musicale.
Petite pause musicale avec Betty Davis Eyes de Kim Carnes, entendu dans Gilmore Girls. Her hair is hollow gold. Lips sweet surprise. Her hands are never cold. She's got Betty Davis eyes. She'll turn the music on you. You won't have to think twice. She's pure as New York snow. She got Betty Davis eyes. And she'll tease you. She'll unease you, all the better just to please you. She's precocious, and she knows just what it takes to make a pro blush. She got Greta Garbo, standoff size. She's got Betty Davis eyes.
to take her home. What's her appetite? She'll lay you on the throne. She got Betty Davis eyes. She'll take a tumble on you. Roll you like you were dice until you come out blue. She's got Betty Davis eyes. She'll expose you when she snows you. Off your feet with the crumbs she throws you. She's ferocious and she knows just what it takes to make it pro blush. All the boys think she's a spy. She's got Betty Davis eyes. And she'll tease you, she'll unease you. And she knows just what it takes to make it pro blush. All the boys think she's a spy. She's got Betty Davis eyes. She tease you. She'll unease you just to please you. She's got Betty Davis eyes. She'll expose you when she snows you.
La suite de Série Folie, c'est maintenant. Ben oui, on va parler série télévisée avec vous. Le sujet proposé par Aurore, bien on t'écoute.
Eh bien, on va parler de pouvoirs, de séries dans lesquelles les héros ont des pouvoirs.
Des pouvoirs ?
Oui, alors...
On peut dire toujours super-héros ou aussi du pouvoir dans la vie ?
C'est plus large, même si c'est pas le côté homme politique. C'est pas le pouvoir politique, c'est le côté homme de la rue qui aurait des pouvoirs, même si évidemment homme de la rue, ça peut recouvrir ici beaucoup de choses différentes. Justement, on va commencer tout de suite par préciser ça, vu que notre première partie va s'intéresser à la nature et à l'origine des pouvoirs en question. Alors, on va pouvoir observer qu'il y a plusieurs types de pouvoirs et du coup plusieurs origines possibles. Le premier, ce serait un pouvoir qu'on a reçu naturellement. Alors ça peut être un pouvoir qui était héréditaire, donc quelqu'un, un de nos parents ou grands-parents le possédait déjà et nous ne faisons que l'hériter. Ça peut être le fait d'avoir été élu à détenir ce pouvoir, mais sans autre explication que celle-là, ou bien simplement ça n'est pas expliqué, mais on sait qu'on a toujours eu ce pouvoir. Bon, ceci dit, le pouvoir parfois c'est depuis la naissance qu'il se développe, et parfois on sait bien, c'est souvent à l'adolescence, voire bien plus tard, à l'âge adulte, qu'on observe vraiment nos héros développer leur pouvoir. Et ils peuvent être soit surnaturels, soit au contraire totalement naturels. Mais ça, on y reviendra peut-être un peu plus tard. les pouvoirs surnaturels, ben on va retrouver quand même pas mal de héros qui ont des pouvoirs surnaturels comme ça de manière héréditaire ou bien de manière non expliquée. Le héros de la série Grimm, par exemple, semble avoir hérité son pouvoir de Grimm de sa famille. Dans le cas de Buffy, ben là, elle a été élue, donc c'est pas de naissance, mais elle a été choisie pour détenir ce pouvoir. Elle n'y est pour rien, évidemment, elle n'a pas eu le choix. Jessica Jones, je n'ai pas l'impression qu'il y ait la moindre explication d'où vient son pouvoir. Au minimum, on la voit déjà adolescente avec ce pouvoir-là, donc j'imagine qu'elle l'a toujours eu, même si peut-être que j'ai loupé une information super importante. Qu'est-ce qu'on va retrouver d'autre? La série Crazy Head, la série Pushing Daisies aussi, tout à coup il découvre qu'il ressuscite les morts simplement en les touchant, mais on ne sait pas d'où lui vient ce pouvoir, simplement il l'a depuis qu'il est tout petit, quoi. Il y a eu une mini-série il n'y a pas longtemps qui s'appelait Him, dans lequel une série anglaise dans laquelle un jeune garçon développait les pouvoirs que son grand-père avait. Voilà, ça, ce sont des exemples de héros qui ont des pouvoirs. Ici, ce sont des pouvoirs surnaturels. Je citerai encore dans Agents of S.H.I.E.L.D. L'héroïne principale, alors qui change de nom au fur et à mesure, mais qui s'est appelée Sky, Daisy, et puis maintenant je me souviens même plus de son nom actuel, qui elle aussi développe petit à petit ses pouvoirs, mais apparemment elle les détenait en potentialité depuis le début. Donc voilà, je constate qu'il y a quand même pas mal de filles dans ce groupe-là, des filles qui ont des pouvoirs dès la naissance ou dont elles ont hérité. On les retrouve beaucoup dans cette catégorie-là. Deuxième catégorie, on a les pouvoirs qui sont dus à une origine surnaturelle. Alors, soit parce que les héros eux-mêmes sont de nature surnaturelle, comme Supergirl, comme Superman, on pourrait même mettre Xena et Hercule dans ces catégories-là, Kyle XY, les héros de Once Upon a Time, pourquoi pas.
Ouais. Mais je ne me souviens pas très bien de l'histoire de Superman, comment il a eu ses...
Mais c'est un extraterrestre.
Voilà, lui c'est un extraterrestre. Donc, alors on va parler d'autres qui eux ont été un peu modifiés génétiquement par accident. Alors
oui, ça c'est plus tard. On a Evan aussi. Alors au début, on croit que l'héroïne est quelqu'un de un être humain normal, mais on va découvrir qu'en fait ça n'est pas tout à fait le cas. Et puis on a aussi ceux qui ont reçu leur pouvoir de quelque chose de surnaturel, mais c'était pas leur nature à l'origine, comme par exemple dans les 4400, ces personnes ont été enlevées à un certain moment de l'histoire et sont revenues sur Terre avec des pouvoirs, mais on sait pas trop pourquoi ni comment. Je pense aussi à la série Preacher, où le prêtre en question, le pasteur même en question, reçoit comme ça un pouvoir sans plus d'explication que ça non plus. Ça, c'était une deuxième catégorie. Troisième catégorie, alors cette fois-ci, on va avoir les pouvoirs, mais volontaires, ceux qui ont été développés grâce à un entraînement et grâce ou bien grâce à de la technologie. Par exemple, dans Arrow, dans Daredevil, Batman également fait partie de cette catégorie-là. un héros comme celui de la série Limitless aussi pourrait en faire partie, puisqu'il lui suffit de prendre une petite pilule et il développe son cerveau. Éventuellement, les frères de Supernatural aussi. Et puis Willow de Buffy contre les vampires, qui elle aussi va petit à petit développer ses pouvoirs de sorcière, alors qu'au départ, elle n'en avait pas du tout, quoi. Donc c'est aussi un développement dû à l'entraînement. Je mettrai aussi dans cette catégorie-là Iron Fist et The OA, sauf que ici, l'entraînement en question a été plus ou moins aidé par certaines entités surnaturelles aussi. Donc c'est un peu un mélange des deux. D'ailleurs, j'en profite pour préciser que chacune de ces catégories, évidemment, sont loin d'être étanches, parce qu'en vérité, on va avoir souvent des mélanges, et plus la série dure et plus elle va avoir tendance à explorer un petit peu chacune des pistes. Quatrième catégorie, cette fois-ci, on a les pouvoirs qui sont dus à des accidents scientifiques ou bien même à des traumatismes, de jeunesse ou pas d'ailleurs. Cette catégorie-là est particulièrement souvent représentée, même avec les autres types de pouvoirs dont j'ai parlé précédemment, puisque le trauma ou l'accident va être l'occasion d'un déclencheur particulièrement efficace. Alors, c'est le cas de Luke Cage, c'est le cas de Flash, c'est le cas de Teen Wolf ou dans Fringe aussi. On pourrait estimer que les quelques pouvoirs que les héros développent sont dus à des apprentis sorciers. Hein. Je pensais aussi à la série Outcast, dans lequel le héros qui a un don apparemment pour chasser les démons, pour exorciser les gens, c'est dû au fait que lui-même a vécu ça dans son enfance avec sa mère, et donc ça lui aurait donné un pouvoir particulier. De même, on pourrait parler de Dexter, dont le traumatisme d'enfance a fait de lui une sorte de super-héros pour repérer les autres psychopathes dans son genre. On pourrait le mettre aussi là-dedans.
Bah, il a aussi accès aux fichiers de la police, hein, tout simplement.
Oui, aussi, évidemment.
Ça peut aider, hein, comme super-pouvoir.
Ça peut aider aussi.
Bon, ouais. Un vrai super-pouvoir, c'est qu'il manie bien le couteau, je sais pas moi.
Oui, mais oui, c'est vrai aussi. Mais son super pouvoir, c'est d'avoir cette pulsion de mort qu'il va pouvoir utiliser. Enfin bon, bref. Alors, il y a aussi la mort qui peut être un déclencheur, étonnamment, dans des séries comme Dead Like Me, comme iZombie, DOA à la limite aussi, un petit peu, et les 4400, si on estime qu'ils ont été enlevés et que c'est une métaphore pour le fait qu'ils soient morts et qu'ils soient revenus, j'en sais rien.
Il n'y a pas de série pour un Spider-Man, par exemple?
Spider-Man serait plutôt dans les accidents scientifiques, entre guillemets, puisque c'est... Mais il n'y a pas vraiment de...
Non, c'était une question. Ouais. Même si ça a pu peut-être exister dans des temps anciens.
Je n'en connais pas. En dessin animé, oui, mais c'est vrai que... bon, voilà. Ça, c'était... maintenant, je passe à la dernière catégorie. Et cette fois-ci, il s'agit de l'idée de mystère, parfois. Mais... La série ne ressent pas le besoin d'expliquer quoi que ce soit. Il y a juste des choses extraordinaires qui se passent, et tout l'intérêt de la série, c'est de pouvoir s'émerveiller de ce mystère-là. Et je pense particulièrement ici à la série John from Cincinnati, qui en fait partie, même si chacun pourra y mettre ici peut-être ce qu'il veut. Peut-être certains y mettront Lost, par exemple, ou bien The Leftover, pourquoi pas. Même si les pouvoirs, c'est pas exactement ça. Je terminerai cette partie en disant que cette question sur l'origine du pouvoir et sur la nature du pouvoir, c'est surtout l'occasion pour les séries qui nous présentent ce type de problématique de nous parler de la question du hasard ou du destin, ou éventuellement de la volonté. Que fait-on exactement de notre vie? Est-ce que notre vie est un choix? Quelle est notre responsabilité vis-à-vis de nos pouvoirs, etc. Donc c'est aussi particulièrement intéressant de remarquer que ce genre de série est l'occasion pour soulever tout un tas de problématiques philosophiques très intéressantes. Voilà.
Voilà, comme tu dis.
On passe à la musique ?
Bah oui, si tu veux bien.
Allez, la musique, ça va être Stressed Out de 21 Pilots, entendu dans Supergirl.
I wish I found some better sounds no one's ever heard. I wish I had a better voice that sang some better words. I wish I found some chords in an order that is new. I wish I didn't have to rhyme every time I sang. I was told when I get older all my fears would shrink, but now I'm insecure and I care what people think.
My name's Blurry Face and I care what you think. My name's Blurry Face and I care what you think. Wish we could turn back time to the good old days when the mama sang us to sleep, but now we're stressed out. Wish we could turn back time to the good old days when the mama sang us to sleep, but now we're stressed out.
Smell will take me back to when I was young. How come I'm never able to identify where it's coming from? I'd make a candle out of it if I ever found it. Try to sell it, never sell out of it. I'd probably only sell one. Maybe to my brother, cause we have the same nose, same clothes, homegrown, a stone's throw from a creek we used to roam. But it would remind us of when nothing really mattered. Out of student loans and treehouse homes, we all would take a ladder.
My name's Blurry Face and I care what you think. My name's Blurry Face and I care what you think. Wish we could turn back time to the good old days when the mama sang us to sleep, but now we're stressed out. Wish we could turn back time to the good old days when the mama sang us to sleep, but now we're stressed out.
Pretend, give each other different names. We would build a rocket ship and then we'd fly it far away. Used to dream of outer space, but now they're laughing at the face, saying, wake up, you need to make money. Yeah. We used to play pretend, give each other different names. We would build a rocket ship and then we'd fly it far away. Used to dream of outer space, but now they're laughing at the face, saying, wake up, you need to make money. Yeah. Wish we could turn back time to the good old days when the mama sang us to sleep, but now we're stressed out. Wish we could turn back time to the good old days when the mama sang us to sleep, but now we're stressed out.
Used to play pretend, used to play pretend, bunny. We used to play pretend, wake up, you need the money. Used to play pretend, used to play pretend, bunny. We used to play pretend, wake up, you need the money. To play pretend, give each other different names. We would build a rocket ship and then we'd fly far away. Used to dream of outer space, but now they're laughing at the face, saying, wake up, you need to make money. Yeah.
La suite de Série Folie, épisode 23 de la saison 4. La série et les pouvoirs, souvent des personnages, hein, finalement.
Mm-hmm.
Alors, on t'écoute.
Alors, cette fois-ci, on va parler du fait que parfois, ben, on a un héros qui est isolé et c'est le seul à avoir vraiment des pouvoirs. Et puis parfois, c'est plus partagé que ça. Alors, je commence directement par le premier cas. On aurait un héros totalement isolé. Bon, faut, l'admettre. En vérité, c'est rare, voire inexistant. J'ai beau y réfléchir, j'ai pas du tout en tête une série dans laquelle on aurait quelqu'un qui aurait des pouvoirs et personne d'autre, jamais, il ne rencontrerait jamais personne qui a des pouvoirs également. Ça ne me dit rien, mais peut-être en existe-t-il. Toujours est-il que, au minimum, mais généralement, il a au moins des ennemis qui, eux aussi, ont des pouvoirs équivalents aux siens pour qu'il puisse y avoir des combats intéressants quand même, parce que sinon on risque de...
S'il est juste badass et que les autres en face, ben, ça ne va rien faire, oui.
Oui, hein, ça va
si
pas
c'est
mener
juste écraser les autres.
Ouais. Voilà. Donc, au minimum, on va avoir ça. Et puis, encore une fois, plus la série va progresser et plus, généralement, il va y avoir la découverte progressive d'alter ego, hein, d'autres personnes qui posséderaient les mêmes pouvoirs que le héros principal, même si souvent, dans ce genre de série, l'apparition de d'autres personnes ayant les mêmes pouvoirs, c'est souvent l'occasion de traiter d'autres manières d'utiliser ces pouvoirs, souvent même de mauvaises manières d'utiliser ces pouvoirs et donc de parler des dérives possibles. Je pense par exemple au personnage de Faith dans Buffy, je pense à ce genre de choses-là, même si il y en a d'autres dans lesquelles vraiment ça devient des alliés à part entière. Dans Grimm par exemple, eh bien, on a une autre Grimm qui apparaît et qui jusqu'à preuve du contraire, n'a pas été utilisée pour justement montrer que notre héros serait mieux parce qu'il utiliserait mieux ses pouvoirs. Souvent on va avoir ça et en plus, ben encore une fois, plus la série évolue et plus notre héros va se trouver normalement des alliés et des alliés qui n'ont peut-être pas exactement les mêmes pouvoirs mais qui ont malgré tout des pouvoirs différents mais intéressants et donc il y a toujours une découverte malgré tout qu'il n'est pas entièrement tout seul qui commence à se mettre en place. Donc voilà, ça c'est la première possibilité. Deuxième possibilité, on va avoir un groupe, une sorte de groupe de personnes particulières au sein de la société qui, elle, serait composée de gens n'ayant pas de pouvoir, donc ils seraient... élus ou en tout cas exceptionnels, soit parce que ils l'ont voulu, soit par pur accident. Hein, ça c'est pas toujours la même chose, mais on en revient à la question des origines là. Dans cette catégorie-là, on va pouvoir retrouver, ben, par exemple, Legends of Tomorrow, où on a toute une équipe de personnes qui ont des pouvoirs tous différents, mais qu'ils vont tous utiliser a priori plutôt pour la bonne cause, on l'espère. On a Misfits aussi, où on a des gens qui, par accident, un groupe de jeunes qui par accident se trouvent avoir des pouvoirs, mais on se rend compte que même ici où on a un groupe, ben un peu comme dans le héros isolé, finalement plus la série avance et plus on découvre que d'autres personnes aussi possèdent des pouvoirs et donc on ne s'arrête jamais simplement au pouvoir premier qu'on pouvait constater dès le début, quoi. Alors, Heroes aussi, hein, on a des gens qui développent un pouvoir petit à petit. D'ailleurs, à ce propos, tu te souviens d'où il vient, le pouvoir dans Heroes? Parce que moi, je me suis cassé la tête à essayer de me souvenir, je me souviens plus du tout, quoi. Est-ce qu'il y a une explication? Je dirais que oui, vu qu'il y a l'homme aux lunettes qui est super au courant et tout, mais en même temps... J'ai zappé, je crois que ça devait pas être si intéressant.
Non, bah, c'est une communauté de gars super badass, mais pour le reste, non, je sais pas d'où ça vient.
Ouais, ça nous a pas marqué en tout cas. Ben encore une fois, on a aussi les 4400 hein, qui vont finir par tous se rassembler d'ailleurs, puisque ben, y a notamment le personnage de c'est Jordan Collier, je crois, qui estime que s'ils ont tous des pouvoirs, c'est qu'ils sont un peu spéciaux, qui sont élus entre guillemets, ou pas du tout entre guillemets d'ailleurs. On peut aussi mettre Hero Corp dans cette catégorie-là, même si dans ce cas-là, ben, est-ce qu'ils estiment vraiment que c'est une chance, une particularité, ou au contraire, ils préfèrent se cacher dans leur petit village parce que justement, ils sont en train de perdre leur pouvoir. Toute la question se pose en tout cas. Alors, troisième catégorie, cette fois-ci, on a les séries dans lesquelles finalement la majorité des personnages ont des pouvoirs. Ce sont généralement les séries dans lesquelles on a les séries fantastiques, dans lesquelles on a plusieurs races, entre guillemets, de créatures différentes, du genre des vampires, des loups-garous, des fées, des fantômes, des zombies, ou que sais-je encore. Ben, évidemment, on va pouvoir mettre The Vampire Diaries et The Originals dans cette catégorie-là, ou bien True Blood. J'y mettrais aussi Once Upon a Time, puisque finalement, ben, l'ensemble des gens du village ont des pouvoirs de contes de fées. Je sais, c'est un peu bizarre de le dire comme ça, mais voilà, c'est quand même un fait. Et enfin, dernière catégorie, cette fois-ci, c'est un peu à part, puisque finalement, ce sont pas les héros qui ont des pouvoirs, mais il existe des pouvoirs, soit chez des personnes en particulier, soit, et c'est quand même plus fréquent, il existe une entité surnaturelle qu'il faudrait combattre par tous les moyens de la part de personnes qui, elles, ne possèdent aucun pouvoir, au minimum à la base en tout cas. Et donc, soit on observe vraiment des personnes qui en sont au tout début, qui commencent à être confrontées à ça, et c'est particulièrement difficile, soit on va se retrouver face à des gens qui déjà combattent depuis des années, voire des décennies, et donc sont bien habitués de la chose et ont développé malgré tout un certain savoir-faire en la matière. Alors dans ces catégories-là, on va retrouver la série Stranger Things, par exemple. On va aussi avoir Ash versus Evil Dead.
Ouais.
Là, dans le vieux briscard de la lutte contre le mal, hein. Et aussi la petite série Stan Against Evil, qui est un peu dans le même genre, bien barré aussi, même si là, c'est un mec qui a pas du tout d'idée de ce qu'il est en train de, ce à quoi il est censé se confronter. On pourrait aussi mettre la série Gotham dans cette catégorie-là, puisque ben, au minimum le détective Gordon et même Bruce Wayne hein, sont totalement sans pouvoir et vont être confrontés à des gens qui, plus la série avance, plus ils développent quand même une capacité au minimum à renaître de leurs cendres assez extraordinaire, plus d'autres pouvoirs également, généralement de rendre fou, etc. C'est toujours bien sympathique. Qu'est-ce qu'on va avoir ? Ben, dans les 4400, on a ceux qui ont les pouvoirs, mais on a aussi les agents du gouvernement qui doivent poursuivre tous ces gentils personnages-là. Donc, eux aussi, on va pouvoir les retrouver dans cette catégorie-là. Supernatural, évidemment. Les deux frères n'ont pas de pouvoir particulier à la base. Et John Carter, La nouvelle comédie Powerless aussi, où on a toute cette bande de personnes qui travaillent dans une compagnie censée inventer des nouveaux produits pour protéger la population ordinaire des super-héros qui n'arrêtent pas de mettre le foutoir dans la ville, etc., etc., etc. On pourrait encore en citer bien d'autres, évidemment, mais tu auras compris ce que je voulais dire. Alors, cette question du pouvoir isolé ou bien partagé, c'est une question qui va particulièrement être intéressante pour poser la question de la différence et de l'acceptation de la différence, donc surtout quand on a des super-héros isolés, hein, puisqu'il faut aussi s'accepter en tant que personnage ayant des pouvoirs. Il y a donc une question d'harmonie entre l'individu et puis la société. La question de la responsabilité, évidemment. Et puis, même si c'est bien trop peu souvent, mais on a aussi la question du partage du pouvoir, puisque finalement, même quand on a des héros isolés, toute la question de qui détient le pouvoir, au nom de quoi il détient le pouvoir, et est-ce que ce ne serait pas plus légitime de commencer à trouver des moyens de partager le pouvoir, ça peut être des questions très intéressantes qu'on va retrouver notamment dans Buffy contre les vampires surtout, et puis un petit peu quand même aussi dans Marvel Agents of S.H.I.E.L.D. Donc voilà, c'est aussi intéressant grâce à ça.
Voilà, Aurore. J'en ai profité pour faire une petite recherche durant ton petit exposé.
Oui.
Donc Heroes, ouais non, ça part simplement du principe que on n'utiliserait que 10% de la capacité de notre cerveau et que là tout d'un coup certaines personnes commenceraient à développer et à utiliser les 90% restants, et donc voilà, au hasard un peu, et puis ils forment une communauté.
D'accord, ok.
Voilà.
Je me souvenais plus du tout de ça,
mais
ça n'a pas grand intérêt. Bref, on va s'écouter de la musique. Cette fois-ci, il s'agit de Bones de Little Big Town, entendu dans True Blood.
Hold on tight, here comes in your town. Ain't no doubt, yeah, they're gonna come out. They're waiting for the sun to go down.
Waiting for the sun to go down.
You can't hide from your demons. Feel them all looking around.
They got you running.
You're running scared, cause you know they're out there. They're waiting for the sun to go down. They're waiting for the sun to go down.
Bien voilà, Aurore, il est déjà temps de conclure cette émission. On t'écoute.
Cette fois-ci, on va parler de l'utilité du pouvoir, parce que oui, ça va peut-être t'étonner, mais finalement, le pouvoir, si on l'a, c'est pour l'utiliser. Et c'est aussi intéressant de savoir à quoi on l'utilise dans nos séries, dans nos fictions. Alors, il y a deux grandes possibilités, évidemment. Soit tu l'utilises à
pour
des fins
de bien.
Purement individuelles.
Ah non.
Ah oui.
C'est pas le bien et le mal.
Mais je dois t'avouer que des héros qui l'utilisent à faire le mal, je...
Mais ce ne sont pas des héros alors.
Mais oui, enfin, ça existe des anti-héros, mais dans la catégorie série avec super-pouvoir, ou même pouvoir en général, c'est vrai que ça me paraît quand même assez rare.
Ok.
Même si évidemment il y a toujours des séries dans lesquelles justement, comme je l'avais dit précédemment, on a des personnes qui combattent des gens qui ont des pouvoirs et donc là ils peuvent l'utiliser en effet pour faire le mal, mais souvent ce sont pas les héros justement.
Voilà. Alors on te laisse continuer.
Donc c'est soit ceux qui utilisent leur pouvoir de manière individuelle,
oui,
soit ceux qui vont l'utiliser plutôt
à plusieurs.
Non. Pour la collectivité.
Pour la les égoïstes et ceux qui ne le sont pas.
Ouais, on pourrait dire ça comme ça, sauf que c'est un petit peu rapide comme manière de voir les choses. Mais en tout cas, il y a deux enjeux qui se profilent ici. Soit d'un point de vue individuel, mais l'enjeu, ça va être d'être capable de mener sa vie au jour le jour, surmonter les épreuves, etc. Donc ça peut être, le pouvoir peut être une sorte de métaphore des difficultés de l'adolescence, par exemple, ou ce genre de
ouais,
choses-là.
T'aimes
hein.
bien ce sujet.
Ah,
mais, bref.
Oui. alors, on va aussi avoir l'idée de s'accepter soi-même et d'accepter les changements qui interviennent dans notre vie, dans cette idée d'utiliser son pouvoir à des fins individuelles. Et puis, peut-être aussi être capable de changer son destin.
Oui.
Voilà, ça, ce sont les possibilités d'un point de vue individuel. Bon, encore une fois, comme à chaque fois quand je donne des catégories, ça signifie pas qu'on va avoir soit totalement l'un, soit totalement l'autre. Bien souvent, malgré tout, on va avoir un petit peu des deux. Hein. On peut avoir des super-héros qui utilisent leur pouvoir pour l'ensemble de la collectivité, mais qui en même temps vont aussi l'utiliser pour eux-mêmes à des fins individuelles. Alors, du point de vue collectif, là, quel va être l'objectif ? Ben, sauver le monde. Ça, c'est l'objectif le plus habituel, enfin le plus banal en tout cas. Hein. Ah, il faut sauver le monde. Ou éventuellement, parfois, c'est pas l'ensemble du monde, mais c'est peut-être sauver la ville ou sauver le pays ou que sais-je encore, sauver la race humaine, pourquoi pas. Je me demandais aussi à ce niveau-là s'il n'y avait pas moyen de mettre toutes les histoires de voyage dans le temps. Alors évidemment, on a Flash qui, lui, a clairement des pouvoirs, mais tous ceux qui utilisent une machine à remonter le temps, bah, ça peut aussi être considéré comme une sorte de pouvoir, justement, pour aller changer le cours de l'histoire. Et là aussi, tu as une sorte de héros qui sauve le monde. Hein. Je pensais par exemple à la série 11-22-63, par exemple, qui est dans ce genre-là, mais la série Timeless de cette année-ci pourrait aussi en faire partie. Autre possibilité, même si encore une fois tout ça n'est pas étanche, ça peut être simplement de combattre l'injustice. Mmh. Alors cette injustice, elle peut être soit présentée sous une forme humaine. Par exemple, on a un gang de yakuza qui sème la panique sur la ville, et donc le super-héros va remettre de l'ordre dans tout ça. Soit surnaturel, hein, on a un vampire qui traîne dans la ville et qui sème la panique aussi, et le héros va remettre de l'ordre dans tout ça, sachant que finalement, souvent les entités surnaturelles qui sont représentées sont souvent des métaphores pour quelque chose de plus psychologique, tandis que quand c'est représenté de manière plus humaine, ce sont plus des enjeux plus pragmatiques, quoi. Le problème, c'est de savoir finalement quand on a un ennemi trop visible, trop identifié, c'est peut-être un petit peu simpliste. La mission du héros est très limité, et on fait comme si le simple fait d'avoir abattu un méchant, d'avoir arrêté un voleur, ça allait changer le monde, etc. Et c'est vrai que ça limite fort les possibilités de voir les enjeux au-delà simplement de la petite criminalité. Donc ça aussi, c'est intéressant de le voir. On peut combattre les forces surnaturelles, tout ça dans un but d'améliorer le monde. Et enfin, on va parfois aussi devoir gérer la multiplication des sources de pouvoir. C'est le cas par exemple dans les 4400, hein. C'est pas qu'ils veulent arrêter les gens qui ont du pouvoir, mais il faut réussir à gérer tout ça parce que à côté de gens qui n'en ont pas, ça risque de poser problème. Et évidemment, on pourrait voir ça comme une métaphore aussi de la situation géopolitique, où on n'a plus comme ça une seule personne un seul pays ou une seule entité qui détiendrait l'ensemble du pouvoir et qui pourrait faire la police sur l'ensemble du monde. Et donc il faut trouver un équilibre dans les rapports de force. Toutes ces questions-là vont finalement permettre de réfléchir à quoi ? Ben, à ce que c'est exactement la justice, ce que c'est l'engagement dans la vie privée, et puis aussi l'engagement au niveau public, ce que c'est un changement social. Et puis aussi, je me demande si dans de plus en plus de séries, on ne retrouverait pas la question de l'impuissance ces derniers temps, notamment dans les séries Marvel qu'on retrouve sur Netflix. On a des héros comme ça qui ne veulent pas agir et qui sont très en retrait et qui sont presque forcés finalement à devoir se rentrer dans la mêlée, comme si il y avait un sentiment d'impuissance dans la société qui se reflétait aussi à travers ça. En tout cas, c'est une question que je me pose. Voilà, je vais m'arrêter là.
C'est gentil. Au moins, on va pouvoir terminer l'émission avec une petite musique. Bah, je te laisse déjà la présenter.
Alors, il s'agit de Dog Days Are Over de Florence and the Machine, entendu dans Being Human.
Voilà, et moi je rappelle tout simplement que cette émission sera podcastée dans les prochains jours et disponible notamment via le www.serifolie.be.
Oui.
À très bientôt.
À très bientôt.
Les deux prochaines semaines, on n'est pas là.
C'est vrai.
Et puis, bah, on se retrouve pour de nouvelles aventures. Très bientôt. Au plaisir de vous retrouver dans deux semaines. À bientôt.